Vous écoutez
RMC.
RMC.
Si il revient en équipe de France, c'est avec grand plaisir. J'y ouvre la porte grande ouverte.
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
Ça se finit toujours par un divorce avec porte et fracas.
L'image que ça donne, moi pour moi, c'est un gars qui doit sortir avec la grande porte.
Ça peut être le premier Cohen dans le. Dans la petite ouverture de porte là que
RMC l'after foot.
Jérôme Sillon.
Bonsoir à toutes et à tous, after exceptionnel pour lancer la saison de Ligue 1 2026-2027, l'after en direct du Stade Vélodrome après la victoire 4-0 de l'OM face à Strasbourg. L'after avec Daniel Riolo. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Avec Walid Acharjour. Salut Walid.
Salut Jérôme, salut Daniel, salut à tous.
On était bien au Vélodrome ce soir les garçons.
Très bien.
On
a passé une très belle soirée.
Très belle journée.
On est bien à Marseille, ça va.
Les joueurs viennent de fêter là.
Ça, Walid, ça fait deux mois. Il s'est installé un peu.
C'est vrai, ça fait une semaine que je suis dans le sud, c'est pas mal le sud.
Non, tu rigoles, j'ai suivi tes stories Insta, ça fait l'impression que t'es là depuis un mois minimum.
Une semaine. Depuis le match contre l'Atlético, parce qu'on travaille. Le dernier match de préparation, faut le regarder.
Et puis t'es venu prendre les infos.
Exactement. Et puis la rentrée sur RMC.
Tous les clubs de paddle de Marseille. Te connaissent.
Oui, je suis invaincu à Marseille.
Ah, très bien.
Je suis invaincu à Marseille.
Ça va, la progression au classement continue alors.
Exactement. À l'image de ce qu'on a vu ce soir.
Bon, les joueurs sont en train de rentrer au vestiaire après cette victoire 4-0. Doublé de Gouiri, but d'Abdallah, but de Hubierg. La victoire éclatante de l'Olympique de Marseille. Évidemment, on va analyser cette victoire, ce match d'ouverture avec vous, 32-16 et supporters marseillais. On vous attend également, le supporter strasbourgeois, parce que, évidemment, ce ne sera sans doute pas l'équipe définitive de Strasbourg qu'on verra cette saison. Au programme de l'after également, le coup de gueule de Paulo Fonseca après la décision de la Ligue de ne pas reporter le match de Lyon à Toulouse demain. Les suites de l'inversion de PSG Rennes, les lourdes sanctions contre les Argentins après leur finale perdue de Coupe du Monde et toute l'actu du Mercato. 32-16 évidemment, et on démarre bien sûr par les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent l'essentiel, c'est le plus important.
Les trois points, Daniel.
Ah, le premier, c'est clair, c'est net. C'est la première de l'OM qui réussit ce soir au Vélodrome avec un enchaînement sur le point 2. Malheureusement, et ça concerne également Strasbourg, on peut tirer quasiment aucun enseignement. L'état d'esprit est excellent, on en va en parler dans un instant, mais on ne sait pas quels sont les joueurs qui vont être là dans un mois ou qui vont partir. Et c'est la même chose pour Strasbourg, parce qu'on pourrait être très inquiet en voyant la prestat ce soir. Est-ce qu'on doit l'être encore plus parce que d'autres mecs vont partir ou est-ce que d'autres vont arriver? On est quand même dans le flou sur les enseignements. C'est le point 2 et le point 3, c'est l'actualité qui est riche en ce début de saison avec tous les points que tu as abordés tout à l'heure. Et notamment celui que je retiens moi, c'est la peine que j'ai pour Bordeaux, parce qu'à force d'avoir enchaîné les années, on disait ça va être la fin, et ben quand elle te tombe dessus, la fin, c'est un choc.
David Glusman sera avec nous tout à l'heure justement pour évoquer donc la décision de la Fédération Française de Football et du tribunal administratif, donc de valider, de confirmer la rétrogradation en Régional 1, le 6e niveau national, donc pour les Girondins de Bordeaux. Les trois points de Walid.
Le premier point, c'est le premier tarif de Genesio avec l'Olympique de Marseille. Ce Vélodrome a besoin d'être emmené avec tout ce qui s'est passé sur la fin de saison, et commencer avec un 4-0, c'est une très très bonne nouvelle. Une équipe beaucoup plus humble, beaucoup plus cohérente. On rentrera dans les détails. Mon deuxième point, c'est Pachao, qui est l'homme de ce début de saison. Déjà en préparation, moi, il m'avait impressionné contre l'Atlético de Madrid, et ce soir il a fait passer un calvaire à Guéladoué, et ça va être pour moi la grosse question: est-ce que Pachao va rester à l'Olympique de Marseille, parce qu'il est obligatoire cette saison. Et mon troisième point, c'est Strasbourg. On l'avait déjà dit cet été, mais on comprend rien à ce qui se passe à Strasbourg. On a du mal à s'attacher à cette équipe, et on l'a encore vu ce soir, où là il va falloir recréer un cycle strasbourgeois avec les nouveaux arrivants qui sont toujours pas sur le terrain.
Alors pour vous expliquer, on est en tribune de presse au Stade Vélodrome, et il faut quand même reconnaître quelque chose, c'est que depuis qu'on est arrivé avec Daniel au Vélodrome, t'as une sacrée cote auprès de la gente féminine ici à Marseille. Il y a que des femmes qui te font coucou.
Auprès de tout le monde à Marseille.
Auprès de tout le monde aussi.
C'est vrai qu'il y a la bonne presse à Marseille.
Ça se passe bien, Daniel?
Mais j'aime bien, moi, quand je viens ici, j'aime bien. J'ai passé une belle journée aujourd'hui. Bien. Et en plus, tu sais, pendant très longtemps, j'ai été le chat noir à Marseille.
Ah oui?
Oh là 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 là, je les voyais pas gagner un match et tout. Ça s'est rectifié à l'occasion d'un OM Toulouse, pas de cette saison, de la saison d'avant, et depuis ça va. Depuis, on est sur un boulevard, tout va bien.
Bon, c'est Gilbert qui va pas être content ce soir. Ah ouais. Avec la défaite de Strasbourg 4-0, évidemment, on lui passe le bonjour.
Ouais, on va pas commencer par parler de Strasbourg parce qu'on a l'OM comme premier dossier, mais je sais pas. Tu sais, le premier défi, je vais même pas le lancer à Walid, à toi et même pas à moi-même parce que je m'avoue vaincu. Mais j'aimerais avoir un supporter de Strasbourg là. Ils sont dans la tribune là-bas à gauche là-bas. Allez le voir. Il fait, hey gars, tu veux me citer ta compo ce soir? Je me demande s'ils sont capables de le faire.
Ouais,
et ça, je trouve que ça, c'est terrible.
Ouais. On va y revenir.
Le nombre de fois où j'ai pris la feuille de match et j'étais en train de loucher entre regarder le match et la feuille de match, j'ai dit, putain, c'est qui lui déjà? C'est qui lui? Mais en fait, il y a quoi? C'est à la fois troublant, exaspérant. Vraiment, c'est terrible. Et pour les supporters de Strasbourg, ça doit être très très dur.
Alors, avant de commencer par l'OM, juste vous dire que Arsenal est en train de battre Coventry 3-0 pour l'ouverture du championnat d'Angleterre. En Espagne, le Betis mène 1-0 face à la Real Sociedad et on approche de la fin des matchs dans ces deux rencontres. Et puis en Ligue 2, match nul donc entériné entre Boulogne-sur-Mer et le Red Star 1 partout. Match nul 1 partout également entre Clermont et Dijon. Montpellier a gagné à Dunkerque 1-0. La victoire de Nancy à Pau 1-0 et le succès de Sochaux face à Guingamp 1-0. Première réussite donc pour l'OM, 4-0. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Et puis ce but de Guéry à la 46e au retour des vestiaires. Après ce jeu à 3, on a aperçu déjà quelque chose dans la relation technique avec cette relance d'Emerson et ensuite avec Paixão, Angel Gomes.
Après il y a 0-0 à la mi-temps, mais sur la première mi-temps, l'OM doit mener au score. Il y a des grosses occasions dans la surface de réparation. Gomes, Amine Guéry qui a eu deux occasions énormes dans la surface de réparation. On avait envie de le réveiller sur la première mi-temps et ce but à la 46e finalement fait beaucoup de bien et lance le match de l'Olympique de Marseille. Mais moi j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de l'OM ce soir, un pressing, une équipe cohérente, sans le ballon, parce que c'était les gros problèmes sous De Zerbi et sous Abibé. J'ai trouvé cette équipe là beaucoup plus cohérente. Alors c'est vrai que dans la surface de réparation ça manque de poids, mais pour une équipe avec tout ce qu'on a dit cet été, c'est très très positif ce qu'on a vu. Alors faudra mettre en comparaison avec l'adversaire et l'adversaire cité de Strasbourg, parce que je pense que ce ne sera pas le même Strasbourg dans un mois et demi, deux mois. Mais ces matchs-là, il faut les gagner de manière large, surtout que je pense que tu dois aller chercher ton public avec ce qui s'est passé. On a vu les banderoles en deuxième mi-temps, en première mi-temps.
Contre Macourt, les banderoles.
Exactement, et Benacha et Longoria.
Ils ont tous pris.
Exactement, tout le monde a pris, le joueur compris. Et c'était important de démarrer avec cette victoire assez large. On ne va pas tirer des enseignements définitifs, parce que, comme l'a dit Daniel, ça reste qu'un premier match, mais c'est très très bien de commencer de cette manière.
Juste la première banderole, hein, la plus importante, c'était McCourt, des centaines de millions investis depuis 10 ans, mais pour quel résultat? Pas de titre, pas d'équipe, pas d'ambition, uniquement des désillusions et des humiliations. Voilà ce qu'ont dit les supporters.
Les banderoles étaient affichées au sein du CU, est-ce que quelqu'un peut leur donner tort? Non. Donc on a évidemment la nouvelle histoire, ce qui arrive fréquemment à Marseille, en moyenne tous les 2-3 ans tu as la nouvelle histoire qui démarre. Donc elle est constituée de plein d'espoir après le match de ce soir. Le but de Guéry, il arrive très tôt au début de la seconde période, il est dans la continuité de ce que l'OM avait fait de bien dans la première période. Mais dans cette première période il y avait énormément de maladresse, parce que si on se réfère à la fameuse stat des ballons joués dans les 30 derniers mètres, il y en avait une tonne pour l'OM, mais il y avait également une tonne
beaucoup
de maladresse,
de surface,
beaucoup de maladresse. Et les joueurs que Walid a mis en avant, si tu t'arrêtes à la 45e, t'as envie d'être critique avec eux, que ce soit Paixão, très actif, maladroit dans le dernier geste. Guiri, j'avais l'impression, tu sais, j'étais presque en train de me préparer à la fin du match, si jamais il n'avait pas marqué. Bon, alors quel Guiri on va avoir cette année? Est-ce que c'est ça vrai. Va être le Guiri régulier? Ouais. Donc, ça tient à ce match. Le mouvement collectif qui amène le premier but, il est magnifique. Paixão, Angel Gomes, le but, la finition, là où il n'avait pas été bon, il est très bon, Guéry, pour terminer. Mais j'oublie pas un élément, et je ne sais pas s'il va falloir s'habituer à ça. J'étais en train de me régaler de l'arbitrage de la première période. J'avais l'impression de voir, en plus je l'avais réclamé un peu sur Twitter récemment,
un arbitrage
pourquoi,
coupe du monde.
Pourquoi on n'a pas l'arbitrage Coupe du Monde? Pourquoi on n'a pas l'arbitrage Coupe du Monde? Et tu vois pas qu'à la une demi-heure de la fin, ça y est, on est tombé dans le carton rouge stupide, le carton rouge direct. Donc en fait, on a inventé un nouveau truc, c'est que l'avertissement ne suffit pas. Toi, si tu fais une connerie, je t'avertis. Là, il n'y a plus d'avertissement. C'est voilà. Rouge direct.
Je trouve que le mot rabais, c'est très bête ce qu'il fait.
C'est bête, donc c'est... tu l'avertis. Toi, c'est ton fils Finkel, il t'avertit.
Oui, oui, oui.
Lui, c'est rouge direct. Là, maintenant, la mode, c'est le rouge direct.
Il
tout
lui
le temps.
Coup, ça va derrière.
Mais
oui.
Écoute ça, mais ça va, il lui a pas pété la jambe, bordel.
Mais je ne peux pas lui mettre jaune, le problème, Daniel. C'est ça le problème, c'est que le règlement t'empêche de lui mettre jaune.
Eh bien, le règlement, il est con, Jérôme. Voilà. Tu vois, le règlement, il est con, parce que moi, c'est rouge direct, j'en peux plus. Ça tue le match. Le match, il est mort après. Alors après, oui, tu as le pressing. Après, on peut parler de l'OM qui a été bon, qui a récupéré les ballons plus Diallo, bah oui, forcément, il y avait plus de place. Forcément, sur la deuxième mi-temps, Abdelli, qui sur la première, il jouait assis sur une chaise en chaussons, tellement il va à deux à l'heure. Bah, forcément, sur la deuxième mi-temps.
J'ai trouvé bon, moi, Abdelli, ce soir. Ah, par rapport à ce qu'il a montré l'année dernière, sincèrement.
Moi, je suis avec Daniel sur ce côté-là.
Vous êtes dur, les gars.
T'as envie de prendre une aiguille, t'as envie de lui piquer les fesses, tu vas te remuer. Pour le coup,
c'est le gros problème d'Abdelli. Je suis d'accord avec vous, mais ce soir, sur la première mi-temps, j'ai rarement vu mettre autant d'impact que ce soir, sincèrement. Ah non, non, moi, je le trouve très dur. Et même sur la première mi-temps, bien évidemment, que Strasbourg, équipe B, il n'y a aucun souci là-dessus.
J'ai fait un mois de chaise longue, j'étais au rythme d'Abdelli, je suis pas d'accord,
je te trouve très très dur avec Abdelli. Pourtant moi j'étais très dur avec lui l'année dernière, l'année dernière t'étais très dur,
il n'a pas joué quasi.
Il avait été catastrophique contre Toulouse, contre Toulouse il avait fait un match contre l'Orient catastrophique.
Tout le monde a vu qu'il était catastrophique l'année dernière. Sauf que là il arrive, il devait être en forme,
il fait son match ce soir.
Il trottine
en deuxième mi-temps, il a trottiné en première mi-temps, il a mis beaucoup d'impact. Sincèrement, je trouve que le milieu de terrain, Gomez, Højbjerg et Abdelli, ils ont fait leur match sur la première mi-temps.
Je te dis pas que c'est pas bon ce soir, c'est bon. Je te dis, ils trottinent.
Ouais, non, je suis pas d'accord.
Tu peux être bon en trottinant. Quand tu vas à Vincennes, voir le trot au mois de janvier, ils sont bons, les trotteurs.
Je suis pas d'accord, Daniel.
Il y a des trotteurs qui sont bons, mais ils trottinent.
Après, t'as Jérôme qui est d'accord avec toi, mais moi, je trouve qu'Abdelli, ce soir, en première mi-temps, il a mis de l'impact. Mais pour revenir sur le global, là où moi, je trouve que c'est très intéressant, c'est sur les intentions, parce qu'il y a eu beaucoup d'intentions en première mi-temps. Bien évidemment que Daniel a raison sur dans la surface de réparation, je sais plus, j'ai pas le chiffre, je crois que c'est plus de 30 ballons dans la surface de réparation, c'est énormissime.
Ce que j'étais en train de dire, c'est que le carton rouge change quand même les données d'un match,
et
que
ce nouveau zéro déjà à ce moment-là,
je te dis que ce football qui est fait de plus en plus de cartons rouges, ça casse les analyses quand même.
Après, je pense que c'est périlleux ce
football. Moi, je sais pas si vous l'aimez.
Sur la première heure de jeu, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Mais ça me va aussi.
Je dis juste que moi, je suis frustré quand un carton arrive si vite dans un match. Il reste une demi-heure. Hein. Je me dis, je suis frustré. J'avais envie d'en voir plus. J'avais envie de voir l'OM continuer à bien jouer.
Après, c'est le foot de très haut niveau quand tu pars.
C'est le nouveau football stack de soja.
Mais oui, d'accord. Mais quand tu pars à la faute, Morabet fait le con, il est sanctionné.
Ça, tu veux dire que comme il le sait, donc il faut.
Il a perdu son duel. Il envoie une savate sur Højbjerg à un moment donné.
Mais vraiment, vous voyez une savate sur Højbjerg.
Oui, il a traîné.
En fait, c'est surtout un geste de réaction. Et je pense que Rudy Duquet, au début de la saison, la première match de la première journée, je pense que Rudy Duquet, il veut marquer les esprits et surtout dire ce genre de comportement, on n'en veut pas cette saison en Ligue 1.
Mais en fait, Daniel, c'est le nouveau football de mise en scène. T'as l'arbitre, il vient au milieu du terrain, il se met en scène, il est là, il parle, donc on n'entend rien du tout. La sono, je sais pas,
machin, on n'entend rien du tout.
On entend, donc il vient, il fait là.
Qu'il va mettre
et puis voilà, bah donc on a compris, parce que comme il y a la mise en scène, tu vois, c'est un petit peu comme dans les mauvais films, tu sais déjà la fin de la scène. Donc tu dis, ah, il va aller là, machin, donc il y va, voilà. C'est comme le péno. Le péno, on revient 10 minutes après sur le mini contact.
Mais il y a péno. Il le balaye.
Mais qu'est-ce qu'il y a péno?
Il le balaye.
Mais qu'est-ce qu'il y a péno?
En fait, c'est dingue, Jérôme, je te dis un truc avec Daniel. C'est qu'en fait, lui, maintenant, c'est l'expérience fan. Tu sais, il est devant son match. Il faut que son match se termine à 11 contre 11 pendant 90 minutes. Sinon, il est pas content, le vieux père. En fait, Daniel, il est pas content.
Tu sais que tu vas finir à aller au stade en vélo cargo et à manger des steaks de soja.
Mais non, mais attends, à un moment donné,
ton espèce de football, la nouvelle formule.
J'étais à quelques-uns à Marseille, des comme ça.
Je t'ai entendu contre Lens à chaque match.
Mais c'est pas possible.
Mais si les mecs, ils vont à la faute, s'il y a faute, il y a faute, il y a rouge, il y a rouge. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Mais non, mais c'est pas. Attends. C'est pas il y a rouge, il y a rouge.
Toi, tu veux ton plaisir perso?
Bah oui, bah pardon, et toi, tu veux quoi, toi?
Mais c'est la compétition, là, mon copain.
Non.
C'est la compète.
Non, tu confonds un truc. Il y a un règlement. Le règlement, il est modifiable. Chaque année, on a des nouvelles règles. Donc, on a le droit de critiquer les nouvelles règles. Tu comprends?
Ouais, mais c'est la quoi première... ton
alors, attends,
rouge,
excuse-moi,
en fait,
excuse-moi,
quoi,
excuse-moi.
Mec, à l'hôpital,
excuse-moi. La première mi-temps, t'étais très content, non, de ce que t'as vu?
Très content.
T'étais content de l'arbitrage.
Mais il y a personne.
C'est un nouvel arbitrage, c'est pas un nouvel arbitrage.
J'ai bien aimé.
L'année dernière, il y aurait eu 50 fautes de sifflet.
J'ai bien aimé.
Et ben alors, pourquoi t'as le droit de le dire? Toi, t'as le droit de le dire.
Mais parce que
toi, t'as le droit de le dire. Moi, j'ai pas le droit de le dire, mais il a le droit de le dire.
Parce qu'il y avait pas de faute, Daniel. Il y avait pas de faute comme celle d'El Mouhabet en première mi-temps.
et il y avait effectivement un contact aussi sur Paishao dans la surface de réparation, le Guéladoué qui le balaye aussi dans la surface.
Et parlons de football.
Bon, on fait une petite pause parce qu'il est 23h, on se retrouve dans quelques instants. L'after continue, on est là jusqu'à minuit évidemment. Le 32-16 est ouvert, supporters marseillais, supporters Strasbourg, je vois que vous êtes déjà très nombreux à vouloir intervenir. Je vous rappelle, victoire de l'OM 4-0 face à Strasbourg. Doublé de Guiri, but d'Abdallah, but de Ibière. On est avec Olida Cherchour, avec Daniel Riolo en direct du Vélodrome. After exceptionnel ce soir sur RMC. A tout de suite.
RMC, l'after foot.
Jérôme Sillon.
L'after exceptionnel en direct du stade Vélodrome ce soir, la première journée de Ligue 1, victoire de l'Olympique de Marseille 4-0 face au Racing Club de Strasbourg. Si vous nous rejoignez sur RMC, doublé d'Amine Guiri, carton rouge d'El Mourabet également à l'heure de jeu, et puis Abdallah et Biarg ont fait gonfler le score en fin de rencontre. C'est fini en Angleterre, victoire des Gunners, champion en titre 3-0 face au promu de Frank Lampard de Coventry, et puis le Betis a battu la Real Sociedad 1-0 en Espagne. On parlait donc de cette première réussite de l'Olympique de Marseille. On a Hamza qui est avec nous au 32-16. Salut Hamza.
Alors, on nous avait vendu à vil prix sur les réseaux sociaux, entre autres, et notamment sur votre antenne, disant que ça y est, on était tout ça. Alors, je ne vous parle pas sportivement, les amis. Hein. Sportivement, c'est notre histoire. Moi, je vous parle par rapport à notre ferveur, à la déception qu'il y a eu par rapport à l'année dernière, à cette entre-saison. On n'a pas eu de recrues, tout ça. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Et on s'est mordu la langue, on s'est mordu les lèvres, on n'a rien dit. Et ce soir, tu arrives au CEPAC Vélodrome, qui a 64 000 peuples bleus et blancs. Je sais pas si tu entends. 64 000 personnes réunies en un seul peuple.
On était guichet fermé, effectivement.
Guichet fermé, il y avait la ferveur, il y avait tout. Heureusement que ça se... Et sportivement, il y a 4-0, franchement, bon, voilà, c'est super. Qu'on continue comme ça, laissez-nous travailler en paix. J'en ai entendu, mais voilà les
Ouais, l'année dernière, qui est-ce qui vous a pas laissé travailler en paix? C'est le club qui s'est mis le feu tout seul. Qu'est-ce qu'on a fait nous?
Avec le respect de toi, avec tout le respect.
On a fait quoi nous?
Je suis pas grand monde. Mais alors, laisse-moi juste finir. Nous, on est 64 000 ce soir.
Ça a toujours été comme ça, même si l'OM met pas un pied devant l'autre, c'est plein. La ferveur n'a jamais été discutée.
La ferveur, elle a été discutée, notamment en fin de saison, comme quand on était cuit, tout le monde s'en allait, etc. Les joueurs ne restaient pas.
Non, je te parle du public, les gens à Marseille, ils restent attachés au club, quoi qu'il en soit. On est d'accord avec la contestation. Les banderoles, qu'est-ce que tu veux dire? Malheureusement, il faut bien reconnaître que les banderoles sont vraies.
Alors, Daniel, attention, quand je dis ça, je n'inclus pas forcément. Alors, quoique, oui, allez, sur les réseaux sociaux, je prends les réseaux sociaux, mais je prends aussi de nos propres supporters à nous.
Que tu aies une déception sur la saison dernière, l'intersaison où tu te dis t'avais envie de modifications. Bon, tu t'aperçois que tu ne peux pas en faire des modifications. Tu redémarres la saison de cette façon. Mais s'il y a bien un truc que l'OM doit comprendre des dernières années, c'est qu'il n'y a pas de règles. Vous faites un mercato riche, vous faites une saison pourrie. Vous faites un mercato pauvre, bon, on ne sait pas ce que celle-là va donner. Dans les années récentes, s'il y a bien un truc qu'on sait, c'est qu'à l'OM, on peut pas déterminer une règle sur la réussite.
Mais, alors attends, j'ai pas une mémoire de dingue pour te sortir exactement les moments où ça a été vraiment. On a été vendu en promotion. Voilà, les Marseillais. Maintenant, voilà le nouveau logo. Le logo.
Je comprends pas où tu veux en venir, Hamza. Là, je comprends pas en fait.
Où je veux en venir, ouais. C'est que
tu veux régler des comptes. Qu'est-ce qui se passe là? T'as gagné 4-0 ce soir. C'est très bien. On passe à Monaco la semaine prochaine.
Laisse-moi parler. Je te dis pas. Je suis pas en train de vous jeter la pierre à vous. Je jette des pierres à certains de nos supporters même. Ceux qui sont même
tu veux régler des comptes. Mais règle les comptes entre vous.
Appelez-vous.
Y a pas de WhatsApp. Y a pas quelque chose.
On a gagné 4-0. Laissez travailler les autres tranquilles, mais pas forcément vous, mais tout le monde quoi.
Tu veux dire qu'il y a des supporters qui commencent à faire la gueule, mais moi je pense qu'il y a.
Non,
je pense que tout le monde a plus ou moins compris la situation. Oui. Je pense que tu t'arrêtes à quelques avis négatifs qui doivent remonter dans ton algorithme. Je crois que tout le monde a compris la situation à Marseille aujourd'hui. On sait très bien que jusqu'au 31 août, il peut se passer des choses. Que oui, il y a peut-être un ou deux joueurs qui vont partir. Si ce sont les gros joueurs, on va être inquiets.
Il y a deux semaines, tu n'aurais pas dit ça.
Qu'est-ce qu'on aurait dit il y a deux semaines?
Enfin, on a fait quand même beaucoup d'émissions l'émission en disant attention quand même, Genesio peut être l'homme de la situation à l'Olympique de Marseille.
Qu'il faut retrouver
du calme, oui. Qu'avec peut-être une équipe restreinte, mais avec des joueurs qui vont être revanchards par rapport à l'année dernière, en Ligue 1, tu peux jouer le top 4. Bon, maintenant ce soir, t'as joué une équipe assez faible de Strasbourg, mais on l'a dit tout à l'heure, t'as eu les intentions, t'as eu aussi en deuxième mi-temps des occasions concrétisées avec beaucoup de confiance. Amine Gouiri, tout à l'heure Daniel le disait, il fait une première mi-temps qui est pas bonne dans la réalisation, mais il se met en confiance avec ce doublé, parce que moi à la mi-temps je me dis attends, Gouiri est en train de faire une Wai face à Reims l'année dernière, hein. Attention, parce que là il a les clés, au poste de numéro 9, et finalement derrière ça se goupille bien. T'as le petit Abdallah, parce que les jeunes vont aussi être utilisés cette saison, qui est en sortie de banc met son but,
et t'as un super but en plus.
T'as les tauliers, Højbjerg, Kondogbia, t'as Pachao qui répond présent, c'est très très bien.
Alors je
c'est très, très, voilà, c'est très très bien. Maintenant on va attendre ce qui va se passer sur la fin de mercato, et derrière on analysera, mais pour l'instant Genesio et cette équipe de l'Olympique de Marseille a fait un super match, mais on parle de ce soir, voilà, ils ont pas fait encore le top 3, il faudra
c'est
voir
pour ça que moi je te parle surtout de ferveur, d'engouement, qu'on est,
mais c'est ça le plus important.
On a compris le message. Juste un mot sur Amine Gouiri, parce que ce soir il met son doublé. Genesio, c'est l'entraîneur avec lequel il a le plus marqué dans sa carrière. Souvenez-vous, à l'époque au Stade Rennais, ça avait déjà très bien fonctionné. Est-ce que ce serait selon toi la plus grosse perte si Gouiri venait à partir d'ici la fin du mercato? Quel joueur l'OM ne peut pas se permettre de perdre d'ici la fin du mercato, Hamza?
Écoute, c'est assez un casse-tête pour les gens qui doivent prendre la décision pour que moi j'intervienne et te dise qui le mieux entre Pierre-Emile, Amine, l'autre ici et là.
Ah, moi j'ai la réponse, moi. Je vais te le dire, je vais te la donner. Moi, pour moi, c'est Pachao. Pachao est obligatoire cette saison à l'Olympique de Marseille. Le Pachao qu'on voit depuis le début de saison, qui accumule les efforts défensifs et offensifs, qui a retrouvé un vrai grain, parce qu'il faut pas oublier que Pachao, Jérôme, l'année dernière, il arrive sans prépa parce qu'il est blessé, et que sa saison, elle est, même si il a été brouillon, et moi c'est pas le style de joueur que j'affectionne, il a été utile à l'Olympique de Marseille l'année dernière. Mais là, on sent qu'avec le départ de Greenwood, il est en train de prendre sur ses épaules cette animation offensive. Et moi, s'il y a 50 millions en Arabie Saoudite ou en Première Ligue ou 45 millions, ils vont sûrement le laisser partir. Et sans Pachao, là, t'as plus le joueur de ce profil de joueur, un peu comme Barcola avec le Paris Saint-Germain, sauf que t'as pas la même force de frappe que le PSG, du mec qui va essayer d'étirer l'adversaire, d'être aussi décisif, d'être un merdier, d'être un bourbier pour l'adversaire. Moi, pour moi, c'est lui qui doit pas partir. Vraiment, c'est l'enjeu de cette fin de mercato.
Hamza, pour terminer, s'il te plaît, vas-y, Hamza.
S'il y a un choix à faire et qu'il fait partie d'une stratégie par rapport à la remise en état d'une situation, moi j'ai rien à dire, et il y a Deguin qui a rien à dire, personne n'a rien à dire. Maintenant tu vois Mason partir et tout, c'est bon, tu as compris, stop, tu arrêtes là. Là ça va pas, tu éclaircis un peu la situation, tu mènes 4-0 là contre Strasbourger, tu vas voir Monaco, on va voir ce qui se passe. Et après, on avance doucement, c'est tout.
Hamza, merci.
Une feuille blanche, je vous embrasse et allez l'OM.
Salut Hamza, merci d'avoir pris le 32-16. On écoute Hugo Oliveira en français, l'entraîneur portugais du Racing Club de Strasbourg, en conférence de presse.
De Marseille, on a possibilité de faire un bout, possibilité de créer la situation. Et après, on a parlé dans le mi-temps que dans la seconde part, on peut faire plus de choses dans le côté pour connecter plus notre match dans le côté. Mais quand tout commence le seconde mi-temps et avec un bout et avec un carton rouge et un penalty, c'est difficile. C'est avec une bonne équipe comme Marseille dans un stade comme ça, comme la émotion, c'est difficile. 11 contre 11, 11 contre 10 est plus difficile. Mais une bonne expérience pour les jeunes joueurs, pour développer. Et c'est important pour moi, c'est important de dire que tu peux faire la chose bonne tactiquement, tu peux faire la chose bonne techniquement, mais dans le football de top, l'intelligence émotionnelle, c'est très, très important. Les équipes et les joueurs que tu as de l'intelligence émotionnelle sont les joueurs qui font la bonne décision. Et aujourd'hui, dans le seconde mi-temps, on fait mal décision. Et comme ça, le match a été dans la direction de Marseille.
Hugo Oliveira, l'entraîneur portugais du Racing Club de Strasbourg, qui s'exprime en français.
À quoi il fait allusion sur l'intelligence émotionnelle? Genre la faute d'Almourabe, il ne faut pas la faire. Je comprends ce qu'il dit.
Oui, je suis d'accord.
Je comprends ce qu'il dit sur la première période.
Guéladoué aussi sur la
première. Oui, sur la première période. il y a quelques sorties de balles qui sont assez intéressantes. On voit qu'ils essayent de faire des choses, mais j'ai l'impression que surtout une équipe qui se cherche,
qui est pas prête.
Avec des joueurs qui se connaissent pas, un entraîneur qui doit découvrir un environnement, des joueurs. Bon, il les a pas découverts hier, il travaille depuis quelques semaines, mais comme il y a toujours cette histoire de pas savoir quels sont les joueurs qui peuvent éventuellement venir ou partir, je sais pas si c'est tout de suite que les analyses autour de Strasbourg valent quelque chose, quoi.
On en reparlera tout à l'heure du Racing Club de Strasbourg.
Oui, pour revenir sur l'effectif de l'Olympique de Marseille.
Oui, je veux d'abord que Daniel réagisse à ce que tu as dit. Toi, tu as dit, c'est pas Ishao le joueur le plus important, celui qui ne doit pas quitter l'effectif de l'OM. Qu'est-ce que tu en penses, Daniel?
Bah, pendant que Walid disait ça, j'avais à la fois envie d'être d'accord avec lui et en même temps de me dire si l'OM doit faire reposer son équipe sur un gars, certes, c'est vrai, c'est lui le plus en forme. Et même l'année dernière, moi, quand certains le critiquaient, malgré tout, je trouvais que quand il était sur le terrain, c'était quand même un joueur différent dans cet effectif.
En Ligue des Champions, surtout en plus.
Exactement. Ouais. Bah, demain, si Gouiri s'en va, s'il n'y a pas d'avant-centre, pour mettre les buts, ça va être compliqué.
Est-ce que c'est pas Hubiergue le cœur de cette équipe? On l'a encore vu aujourd'hui. Il est énorme dans l'impact.
Quoi qu'il arrive, moi, pour moi, parce qu'on parle des recrues de l'Olympique de Marseille, les meilleures recrues, ce serait de garder tout le monde. La réalité, elle est là.
Sauf que c'est pas possible.
Ça, c'est plus facile de faire cette analyse, mine de rien.
Non, mais parce qu'aujourd'hui, quand Daniel dit Gouiri, il a raison. Quand toi, tu dis Højbjerg, tu as raison. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille doit sortir des mecs. Parce qu'on va le rappeler une énième fois, il doit faire 90 millions de plus-value. D'accord, ils ont fait Greenwood, ils ont fait sortir des mecs. Moi, je pense de mon analyse qu'ils vont faire sortir Timber et Balerdi, parce que Balerdi, comme il est amorti depuis 5 ans, si tu le sors à 15 ou à 20, Balerdi, bah tu vas faire rentrer
ça,
20.
Ceux qui ont de la valeur, voilà. C'est eux.
Timber, la même chose. C'est que pour moi, Haguerd qui est rentré ce soir, je suis pas sûr qu'il sorte, parce que Haguerd aujourd'hui,
il a pas l'air blessé, en tout cas.
Ouais, exactement, il a pas une énorme plus-value.
Après, Pachao, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'argent pour que ça rapporte quelque chose. Pachao, ce qu'il avait payé cher
à 50, vu qu'ils l'ont fait 32, à 50, tu as quand même 18 de plus-value. Donc ils seront obligés de le faire partir. Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner. Mais la réalité, c'est que même si, quand tu regardes le banc des remplaçants, ça fait très très peur, parce que tu vas jouer l'Europa League. Si tu as ce 11 qu'on a vu ce soir, bon, il faudra avoir un meilleur Aminarit.
On s'est arrêté sur la moitié de l'équipe qui a fait un bon match. Après, il y en a d'autres, et notamment Aminarit, c'est quand même un joueur qu'on connaît depuis des années. Là maintenant, il est dans une position d'ailier droit. À un moment, on a cru que c'était un meneur, et je pense que naturellement et dans sa formation, il était plus fait pour un poste comme ça, mais bon, ça n'existe plus et il n'a pas le niveau, au très haut niveau, pour jouer comme ça. Là, ailier droit, ouais, il y a 2-3 mouvements, il y a 2-3 ballons perdus. Bon, moi, je ne suis pas. S'il était extraordinaire, je pense qu'on le saurait depuis longtemps maintenant. Il y a la question Timothy Weah. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Autant. Quand il a joué, parce que quand il est revenu l'année dernière, c'était pour jouer avec une défense où ils étaient à 3 avant l'axe et il jouait piston droit. Et en gros, ça devait être la découverte de la saison, c'est-à-dire qu'il jouait l'arrière droit, mais on va dire plutôt piston. Et moi, j'aimais bien l'idée. Et il y a eu pas mal de matchs où, effectivement, aussi bien sa générosité, tout ce qu'il donnait sur le terrain, je lui voyais même des qualités techniques que j'avais peut-être pas compris avant, le concernant. Là, arrière droit dans une défense à 4, son apport me semble pas complètement dingo.
Sur le match de ce soir, je suis d'accord avec toi, parce que je pense qu'il vient pas assez dédoublé dans le dos d'Aminarit.
Alors que c'est un attaquant à la base, dans une défense à 4 arrière droit, Timothy Weah, qu'on a en plus fait devenir capitaine.
Moi, je pense que c'est des consignes. Parce que Genesio, faire jouer un Timothy Weah dans une défense à 4.
Ouais, dans ces cas-là, il te faut un vrai arrière droit, ça sert à rien d'avoir Weah.
Oui, mais après, oui, mais il est capable. Je trouve qu'il y a une animation quand même avec Aminarit intéressante. Il y a des dédoublements. Maintenant, c'était pas le point fort ce soir à droite, parce que c'est plus du côté gauche avec Pachao que t'as fait des différences. Mais sur les matchs de prépa, Timothy Weah, il avait fait des choses intéressantes. Après, avec ce que tu as aujourd'hui, de toute façon, tu vas devoir faire les moyens du bord, et Weah, ça reste quand même une valeur sûre en Ligue 1, je pense.
32-16, les supporters marseillais, supporters strasbourgeois, continuez de nous appeler. L'after exceptionnel en direct du stade Vélodrome, ici à Marseille, après la victoire 4-0 de l'OM face au Racing Club de Strasbourg. On est avec Daniel Riolo, avec Walid Acherchour, et on va continuer à débriefer ce match, l'évaluation à venir. On écoutera également Bruno Genesio en conférence de presse, les joueurs de l'OM également attendus en zone d'interview, et puis tout le reste de l'actualité avec du Bordeaux, avec du Rennes, avec du Lyon et avec le Mercato. À tout de suite.
RMC, l'After Foot.
Jérôme Sillon.
L'after en direct du Stade Vélodrome avec Daniel Riolo, avec Walid Acherchour. After exceptionnel pour lancer cette saison de Ligue 1. L'OM a battu Strasbourg 4-0 pour cette première journée. Doublé d'Amin Gouiri, dont un but sur pénalty. But du jeune Kélian Abdallah, son premier en pro. Le but également de Ibierg. Et puis, on vous rappelle également qu'El Mourabet a été exclu à la 59e minute alors qu'il y avait 1-0. Walid, ton premier point, c'était sur le premier tarif de Bruno Genesio.
Ah, Bruno Genesio,
ça tombe bien parce que Bruno Genesio est en conférence de presse. On va écouter tout de suite la réaction.
Non, j'aurais dit qu'on avait fait quand même pas mal de bonnes choses, mais qu'il nous manquait un petit peu de folie dans les 25-30 derniers mètres, un peu de percussion, de prise de décision, de dribble, de vitesse. Mais il y avait eu beaucoup de bonnes choses face à une bonne équipe de notre championnat, et qu'il fallait continuer à bien préparer nos actions, mais à mettre un peu plus de monde devant le but aussi. Et forcément, lorsque vous marquez assez rapidement comme ça en deuxième mi-temps, ça vous libère. Et après, on a su profiter aussi de la supériorité, même si c'est jamais si simple d'en profiter.
Bruno Genesio en conférence de presse après la victoire de l'OM 4-0. Vous êtes sur RMC dans l'after. On est avec Walid Acherchour, avec Daniel Riolo, et on débriefe la victoire de l'OM 4-0 face au Racing Club de Strasbourg.
Au-delà, bien évidemment, du résultat, c'est quoi ? C'est le collectif, c'est
l'entrée
des jeunes.
Qu'est-ce qui vous a plu au-delà du résultat ?
Le public aussi qui a répondu. C'est quoi un petit peu le résumé de votre soirée qui fait que la soirée est parfaite ?
Oui, beaucoup de ce que vous avez dit, c'est-à-dire cet esprit qui est présent depuis le premier jour où on est ici. Je l'ai souligné depuis le début. C'est ce qu'on ressent depuis notre arrivée, le staff et moi. Forcément, l'entrée des jeunes joueurs, la joie sur les buts, la joie collective sur les buts de ceux qui étaient sur le terrain, de ceux qui ne l'étaient plus ou de ceux qui n'y sont pas rentrés, parce que c'est quelque chose de révélateur aussi dans un groupe. Et forcément, j'en ai déjà parlé plein de fois, que c'est une des grandes raisons pour lesquelles je suis venu ici, ce public et ces émotions qu'on vit dans ces moments. Voilà, donc ça a été le cas dès l'entame de match. On a été poussé, on a été aidé, et puis forcément, vu le scénario du match, on ne pouvait pas rêver mieux de comme entame.
Voilà, Bruno Genesio en conférence de presse, évidemment, s'il dit d'autres choses très intéressantes, on vous les passera. Walid, c'était
les choses intéressantes, excuse-moi, les choses intéressantes, il les a dit à Ligue 1 Plus tout à l'heure, juste avant le match. Et forcément, vu que c'est un peu le sujet et tout le monde parle de ça, et c'est ce qui inquiète le plus les supporters de l'OM, il a quand même lâché qu'il y avait peut-être 3, 4, 5 départs à prévoir.
Encore ?
Ça fait quand même beaucoup. C'est-à-dire quand l'entraîneur vient une heure avant le coup d'envoi à te dire, il commence par 3, 4, virgule, peut-être 5, ou tout de suite tu te dis qui, quoi, comment, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'on aura le temps derrière de prendre des gens ? Donc je vois déjà se dessiner le propos qui viendra commenter ces départs. Souvenez-vous, l'année dernière, Lyon, ils étaient complètement à la cave. On les voyait finir en limite, jouer le maintien, et regarder la saison qu'ils ont fait. Donc ce sera ce qu'on dira pour se rassurer. Très franchement, s'il y a 3, 4, 5 joueurs de cet OM-là qui partent remplacés par remplacés, je ne sais pas si l'OM pourra jouer le top 5, hein, franchement.
C'est la grosse question. De toute façon, ça me fait penser à, tu parlais de l'Olympique Lyonnais, mais je crois que c'était Pierre Sage qui l'avait dit il y a 2 ans, où jusqu'au 31 août, il expliquait que il pouvait pas faire son effectif. Genesio l'a dit aussi en conférence de presse à plusieurs reprises. Et c'est pour ça que moi, je mets du crédit sur la victoire ce soir. Il parle d'énergie, avoir cette belle énergie alors que.
Il faudra l'avoir si t'as les mecs qui partent.
Oui, mais.
Faudra qu'ils gardent ça, quoi.
Oui, mais parlons de ce soir, parce que avec cette déclaration avant le match, voilà. Avoir une équipe aussi enthousiasmante sur la première mi-temps, même sur la première heure de jeu, alors qu'il y a des joueurs qui peuvent partir, un Pachao par exemple peut partir, et il a fait quand même un super match ce soir. J'ai quand même envie de
dire qu'il est quand même concerné.
Exactement,
oui.
C'est des mecs qui sont concernés, il y a une énergie positive au club. Alors peut-être que c'est la nouvelle trousse, la nouvelle gomme, le nouveau cartable, donc on va attendre bien évidemment ce qui va se passer par la suite. Mais ce soir, les intentions, ce qu'ils ont essayé de diffuser aussi dans ce stade, parce que cet été ça a été compliqué, voilà, tout le monde, il y a eu une vraie redescente avec le projet.
Et il y a eu zéro recrue avant surtout, le coup d'envoi d'une saison de Ligue 1, c'est historique.
Voilà, avec ça, le contexte, faut le dire, avec la redescente du projet Longoria, Benatia, De Zerbi, ce qui s'est passé avec Habib Bey, Genesio qui arrive un petit peu par la petite porte, Greg Lorenzi, proposer ce football-là, même si ça reste face à une adversité faible et une équipe qui n'est pas prête, moi je mets quand même beaucoup de crédit, même Genesio, je trouve qu'on a vu. On connaît le coach, mais du rythme, non, mais problème, du rythme, un pressing, jeu plus rapide.
Le problème et le bémol sur ce que tu dis, c'est qu'en fait, le contexte du football français fait que je comprends que tu mettes en avant le fait que malgré la difficulté, tu affiches cet état d'esprit. Bon, j'ai envie de te dire pourquoi.
Et ce jeu.
Pourquoi n'afficherait-il pas un bon état d'esprit? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de thunes, donc tu fais la gueule. Donc
non, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent partir. Parce que...
Ok, très bien. Mais ils affrontent une équipe et un club qui posent, selon moi, la question du moment dans notre football. Est-ce que Strasbourg, c'est encore du football?
Non, ça oui.
Et ça c'est un vrai truc. Alors, pardon, j'anticipe peut-être sur des débats qu'on fera lundi. Hein, et on va le reporter, je ne vais pas aller plus loin. Strasbourg, je vais peut-être presque mettre Monaco. Il y a quelques clubs en France aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est encore du football. Ouais. On nous propose, dans le projet, dans ce que ça veut raconter. Oui, moi, ça m'inquiète.
Marseille,
comme c'est malgré tout, parce que il y a l'histoire, il y a l'engouement et la ferveur, on voudra toujours créer un projet. Mais attention, si t'as 3, 4 joueurs, 5 joueurs qui partent là et que ça laisse l'équipe comme ça, il va falloir mobiliser.
C'est inquiétant,
fou,
bien sûr.
Moi, je veux bien, c'est
bien
formidable
sûr, c'est inquiétant.
Si on a l'état d'esprit et tout, mais on sera là à commenter un niveau qui ne cesse de régresser
quand même.
Mais
t'as raison là-dessus. Si demain tu perds 3, 4 joueurs, moi je pense que tu vas en perdre 2 minimum, mais si tu perds 3, 4 joueurs, il faudra faire un bilan d'ensemble, savoir, voir qui va arriver. Et c'est vrai que sur 2 compétitions, c'est inquiétant. Moi, je parle juste de ce soir. T'as quand même un propriétaire qui a fermé le robinet, qui a dit bimbo, pipo bimbo, ce que vous voulez, s'il y a une offre pour n'importe qui, ça sort. Ouais. Et t'as Genesio qui est arrivé dans ce projet, qui s'est dit oui, il y a une restructuration, mais il pensait pas que ça allait être autant aussi important. 4-5 recrues, on est le 21 août, 4-5 départs le 21 août. Et je trouve que malgré ce contexte-là, où il y a de la tension au club, on a bien vu Genesio la semaine dernière qui a dit moi, Hoiberg, je lui aurais laissé le capitanat. Il y a aujourd'hui, on sent que il y a des désaccords entre le sportif et ce qui se passe tout là-haut avec Macourt et avec Sherazade, parce que il y a le plan financier et le plan sportif. Et malgré ça, ce soir, tu offres quand même à tes supporters un 4-0, un tarif avec le petit jeune qui rentre, qui met un super but.
C'est
ça que moi j'ai envie de mettre quand même en perspective.
Merci pour la passe D, Walid, parce que Kenneth Abdallah, il vient de passer en zone mixte, en zone d'interview. On va écouter sa première réponse.
Là, franchement, j'arrive toujours pas à réaliser. Ça allait très très vite dans ma tête. Mais je suis très content parce que ça me récompense sur tous les efforts que je fais au quotidien et depuis le début de la préparation aussi. Mais le plus important, c'est les 3 points, c'est d'avoir bien commencé le championnat et d'avoir fait plaisir aux supporters.
Voilà, Kylian Abdallah, donc son premier but en professionnel ce soir, donc formé à l'OM, il a marqué à la 89e minute, un super but du pied gauche, et il a pris donc au premier poteau.
On va le revoir, hein.
Ah, il y a des chances qu'on le revoie, effectivement.
Il y a des jeunes joueurs qui vont sûrement prendre des minutes cette année.
On a Adam qui est là également au 32-16 au standard RMC. Salut Adam.
Salut Jérôme, salut l'équipe.
On prononce Adam, salut. Adam, je sais jamais.
Ouais, c'est ça, Adam, parfait.
Super. Bon, qu'est-ce qui t'a plu ce soir? On a posé tout à l'heure la question à Bruno Genesio. Qu'est-ce qui t'a plu? Le tarif évoqué par Walid, peut-être l'absence d'enseignement vu les incertitudes au niveau du mercato évoqué par Daniel?
Écoute, les incertitudes autour du mercato, moi ça j'ai pas trop envie d'en parler parce qu'on en a parlé jusqu'à le coup d'envoi du match. Et pour moi, à partir du moment où le coup d'envoi a été donné, là on parle ballon, on parle football. On sait, on connaît le contexte, on sait à quel point c'est compliqué, surtout après la saison horrible et ignoble qu'on a vécue l'année dernière. Là j'avais envie juste de penser football. Et en parlant juste du match, moi je trouvais que la première mi-temps était assez moyenne. Il y a eu quelques phases de pressing intéressantes. J'ai beaucoup aimé Angel Gomez. Mais ça
connaît
un peu difficilement devant. Ouais, Angel Gomez, j'ai trouvé très intéressant.
Bien,
et
bien.
Puis, je pense qu'il peut rester
bien entre les lignes.
Même ouais, si la finition, c'est pas son fort. Hein. C'est vraiment son point faible.
La finition, c'est pas
il a raté une ou deux occasions, des frappes, il les met à côté.
Ouais, c'est ça. Et en même temps, il se procure. Il se met dans les bons espaces. Il a les ballons au bon endroit. Mais bon, oui, c'est vrai que les frappes n'étaient pas ouf. Même si en match de préparation, il a mis un bon but hein, contre Bilbao, il me semble.
Mais lui aussi, ça peut être le grand gagnant de cette restructuration avec Genesio qu'il a connu à Lille. Et je trouve que dans le lien entre l'attaquant et le milieu de terrain, quand il est dans cette, dans ce football-là, même s'il peut être frustrant, ça peut être un joueur sur qui compter cette saison.
Il n'a pas une cote en PL en première ligue, Angel ouais. Gomez.
Il a été à Wolverhampton, ça n'a pas été extraordinaire. Donc,
ne leur dites pas aux Anglais, leur en parlez pas trop, ils ne le connaissent pas. C'est bon, ils ont oublié. Ouais. Et moi, je fais la différence avec des joueurs comme Amin Harit. Tu vois, vous en avez parlé tout à l'heure, je vous ai entendu, Daniel t'en a parlé. Amin Harit, pour moi, en fait, on va nulle part si on commence avec ce joueur titulaire toute la saison. Lui, pour le coup, ça m'étonnerait qu'il y ait des clubs qui se battent pour le recruter. Et c'est pas possible. C'est juste, voilà. Il a pas fait un match dégueulasse, loin de là. Il a été intéressant en première mi-temps. Dans l'énergie, l'état d'esprit, il y a rien à dire.
Ouais. Il met beaucoup d'énergie.
C'est la même chose, en fait.
Il a toujours fait ça.
Mais avec le ballon, c'est un peu, c'est frustrant ce soir. Ce soir, il fait un match 3 sur 10 avec ballon. Par contre, dans l'énergie, dans le fait de défendre, dans le fait d'apporter aussi dans la surface de réparation. Moi, je pense quand même qu'Amin Harit, dans un effectif où cette saison, ça va être très compliqué, il peut quand même t'aider en Ligue 1. C'est un joueur qui s'approche de la trentaine, qui est peut-être revanchard, parce que l'année dernière.
Ah oui, ça fait 10 ans qu'il est revanchard.
Oui, mais.
Saison qu'il démarre, il doit se manger de celle d'avant.
Oui, mais c'est vrai.
En fait, tu l'oublies. Moi, quand je l'ai vu ce soir, j'ai dit, putain, c'est vrai, Amin Harit.
Mais j'ai envie d'avoir la naïveté de dire.
Tu viens d'où, Amin Harit? Tu étais où, Amin Harit?
Ce mec-là, il a quand même des prises de balles très intéressante après
on aimerait qu'Amin Harit ce soit le Amin Harit du Sporting Marseille à l'époque en Ligue des Champions après, il y a quelques années après, quand il a avait gagné là-bas.
Il a eu des blessures et puis Amin Harit en fait il serait pas à Istanbul Başakşehir l'année dernière en prêt si en fait il serait très très fort. Maintenant il faut le prendre avec ses qualités et ses défauts et je trouve que ce soir il fait pas un grand match dans la réalisation mais cette saison je l'écarte pas, il peut être utile.
Ce soir t'en as quand même un paquet. On est au premier match, ce soir t'en as un paquet de joueurs. Tu peux mettre sur une feuille en disant, bon alors, quelle version tu as? Amin Harit, quelle version? Parce que sa carrière, on la connaît. Amin Gouiri, quelle version? Combien de temps?
Kondogbia aussi.
Parce que sa carrière, on la connaît.
Kondogbia, t'as fait un gros
Kondogbia,
match.
Kondogbia, idem. Lui, c'est, Kondogbia, ça fait des années qu'on se pose les mêmes questions.
S'il pouvait ne pas s'entraîner Kondogbia cette saison, ce serait une bonne chose. Hein.
Ouais,
il faudrait le voir, je sais pas, un match par semaine.
Mais on dit ça depuis 10 ans. Donc, lui, on le met également sur la liste de on sait pas. Sur cette liste, je vais ajouter Pierre-Emile Højbjerg, qui a démarré très bien l'année dernière, qui a fini cramé, qui au mois de janvier, parce qu'il a l'âge, parce qu'il y a les deux matchs par semaine, hein, il finit toujours un peu par fatigué. L'année dernière, il y avait plein de supporters de l'OM qui n'en pouvaient plus.
Ouais, moi aussi.
On en est à combien? J'en ai cité combien déjà? Je suis quasiment à 5.
Tu peux rajouter Balerdi s'il reste?
Tu peux rajouter Egan Riley, on n'a pas parlé d'Egan Riley.
Le gamin en Angleterre qui avait été champion U20, c'est ça? Il est où?
Et on
n'a
pas
arrivé,
parlé du gardien.
Il est arrivé
Long.
Comme une bombe atomique.
Il n'y a pas eu un arrêt à faire de Long.
Jessica Lanz, là, oui, pareil. Lui aussi, qu'est-ce qu'il vaut dans les buts? On ne sait pas trop. Ouais, c'est une référence ancienne, personne ne se souvient de cette action.
Je l'ai pas, celle-là.
C'est normal.
Truc de daron, ça.
Bon, on a fait le tour. Adam, merci.
Je voulais
juste entendre Walid sur Strasbourg avant qu'on passe au reste de l'actualité parce qu'on a beaucoup de choses à dire encore sur Lyon, sur Rennes et tout. Mais sur Strasbourg, qu'est-ce que tu voulais dire? C'était ton troisième point.
Ouais, Strasbourg, c'est le premier quart d'heure était plutôt cohérent. On a eu des sorties de balles intéressantes, mais maintenant l'échantillon il est trop maigre.
Sortie de balle aujourd'hui, c'est quand tu fais trois passes et que le ballon il revient sur ton défenseur central.
Je rappelle juste qu'il manquait
Pierre Michelli. Une passe verticale vers ton milieu.
Il a deux,
aujourd'hui
trois...
c'est la mode, donc chaque fois sortie de balle.
Daniel, deux trois transitions qui doivent mieux gérer, notamment avec Amoaneyo et Guéladoué sur la première mi-temps. Mais ce que je veux te dire, c'est que derrière, ça a été minable. Mais tu sais quoi, je vais détruire Strasbourg ce soir.
Non,
ça sert à quoi?
Mais Palicelli, Chilwell, Doucouré, Godot, ils étaient tous absents, plus Karim Koulibaly qui n'est pas qualifié. Et la plupart des recrues étaient sur le banc.
Karim Koulibaly, on m'en dit le plus grand bien. Karim Koulibaly.
20 millions d'euros, ça y est, c'est fait. Arrivé du Verder.
Il avait une énorme cote.
Peut-être on va attendre le vrai début de saison. Ce soir, leur début de saison, c'est dans 10 jours.
Exactement.
Et puis on verra une fois qu'ils vont à Lens.
Ils vont à Lens la semaine prochaine. Mais bon, moi, je connais pas le coach, je connais pas, enfin les joueurs, on les connaît un petit peu parce qu'il y avait, en fait, c'était l'équipe B de l'année dernière.
En fait, on sait pas trop ce que ça va donner ensemble.
Voilà, mais en fait, ils se retapent une voiture, les mecs, ils se retapent une maison. Donc en fait, qu'est-ce que tu veux dire ce soir? T'as pas Panicelli, t'as pas Barco, t'as pas Doucouré.
Par contre, on le reverra pas.
Oui, voilà, mais enfin, t'as pas Morera, hormis Guéladoué qui était un titulaire et qui a fait un match catastrophique ce soir. Pachao, il a mélangé. C'est très très compliqué de s'exprimer sur Strasbourg. Mais moi, je l'ai déjà dit, ce projet Strasbourgeois, en fait, je ne m'attache plus du tout parce que ils font, en fait, c'est la machine à laver du football. C'est trop compliqué.
Et le dernier nom en provenance de Chelsea, on parle de Dario Essugo, l'ancien du Sporting, qui pourrait arriver.
On a compris, c'est le tapis de course. Hein.
Et Omari Kelliman et David Washington.
C'est la salle de sport de Chelsea.
Et même Mudryk, la rumeur Mudryk qui est arrivée, pourquoi pas en prêt cette saison avec le Racing Club de Strasbourg.
T'as une belle salle de sport dans ton hôtel?
Ouais. Ouais. Pourquoi?
Non, je te demande, parce que c'est Strasbourg, c'est une salle de sport. Oui, c'est dans les hôtels. C'est les gens quand ils vont à l'hôtel, ils disent ah, est-ce que t'as une belle salle de sport, t'es bien entraîné et tout. Ouais, bah, c'est Strasbourg.
Ouais, ouais, c'est ça.
Exactement. 4-0, donc la victoire de l'OM face à Strasbourg ce soir au stade Vélodrome, l'after en direct de Marseille. Il y a encore plein de choses dont on veut vous parler dans l'after jusqu'à minuit. On va vous parler évidemment des Girondins de Bordeaux, on va vous parler de l'Olympique Lyonnais dans un instant, du stade Rennais aussi, de cette inversion dans le match Rennes-PSG, et puis les suites disciplinaires de la finale de la Coupe du monde, l'actu du mercato, plein de belles choses jusqu'à minuit.
On n'aura jamais le temps de faire tout ça, Jérôme.
On verra. À tout de suite.
L'after foot.
Jérôme Sillon.
After exceptionnel ce soir pour l'ouverture de la saison de Ligue 1. On est au stade Vélodrome après la victoire de l'OM 4-0 face au Racing Club de Strasbourg. Le doublé de Guiri, le but du jeune Kélian Abdallah et le but de l'ancien capitaine Pierre-Émile Højbjerg. On est avec Daniel Riolo, avec Walid Acherchour. Alors, en dehors de cette victoire marseillaise, il faut qu'on parle de l'Olympique Lyonnais. Lyon est en colère après le refus de la Ligue de reporter son match demain à Toulouse. Match qui est programmé entre les barrages aller et retour de Ligue des Champions contre Fener. Je voulais vous faire écouter Paulo Fonseca, l'entraîneur lyonnais, qui s'en est plaint aujourd'hui en conférence de presse.
Je suis désolé. Pour moi, c'est difficile de comprendre parce que je pense que c'est très positif pour le football français d'avoir la possibilité d'avoir un plus club dans la Champions League. Et je pense que c'est positif pour tous. Nous n'avons pas tous qui veulent le bien de France, le championnat français. Peut-être que je comprends de Toulouse, mais les autres clubs, nous vivons des temps très égoïstes. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour le bien du football français.
Paulo Fonseca. Alors les garçons, Walid, Daniel, est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures quand on se rappelle les reports et notamment le fameux report de Lens PSG la saison passée?
Oui.
Deux poids, deux mesures?
Il a raison. Il a raison. L'année dernière, on a autorisé le Paris Saint-Germain entre un choc Lens PSG deux fois pour aller gagner une Ligue des Champions qu'ils ont gagnée. Pourquoi l'Olympique Lyonnais qui doit aller chercher une Ligue des Champions dans un match très important au couteau contre le Fenerbahçe? Fenerbahçe qui a envoyé quand même les oiseaux, hein. Ils ont envoyé quand même beaucoup beaucoup d'argent pour faire un gros mercato. Pourquoi si on est dans la même logique, pourquoi on ferait pas la même chose avec l'Olympique Lyonnais?
Aujourd'hui, il y a une obsession qui est légitime à l'OL, c'est d'aller en Ligue des Champions parce qu'il y a les 44 millions. Toutes les réflexions dans notre foot aujourd'hui ne tournent qu'autour de l'oseille. Le sport, c'est en deux. On vient de parler de l'OM, on parle des départs, ils ont gagné 4-0. Une fois qu'on a parlé de ce qui s'est passé, on est immédiatement freiné dans notre analyse en disant ah, mais ça va peut-être pas être les mêmes joueurs parce qu'ils vont peut-être partir parce que les finances sont catastrophiques. Strasbourg, on parle de la même chose. Lyon, c'est le sujet qui suit. Ils ont un match très important qu'on a tous envie de voir mercredi soir.
Très excitant.
Parce que c'est un barrage de Ligue des Champions, donc c'est forcément très excitant. Mais on sait que derrière, c'est quelque chose de vital pour l'OL d'y aller. Pour les finances, je rappelle quand même que ces réflexions-là, parce qu'en fait, tant que le football français ne se sera pas complètement réorganisé par rapport aux faillites financières dues aux droits télé, et ça va prendre du temps, on sera dans cette réflexion-là. Parce qu'au bout d'un moment, quand on aura admis que tu n'as plus de thunes, bah, tu feras avec plus de thunes. Sauf que là, il faut digérer toutes les erreurs. Par exemple, l'OM, s'ils sont dans cette situation-là, c'est parce qu'ils ont surinvesti sur la qualification en Ligue des Champions en se disant « il va falloir qu'on y aille 2 ans de suite » et tout ça. Et ils ont beaucoup trop dépensé d'argent et trop investi et ils se sont mis dans le ravin. Lyon, c'est pour d'autres motifs, avec la gestion catastrophique post-Olas quand Textor a mis le club dans le ravin.
Plus droit TV, donc, plus CVC, plus...
Donc les droits TV, tout ça. Donc ça, tant okay, qu'on ne sera là... pas réorganisé, on vit en suspens de ça. Donc aujourd'hui, tu as les clubs français, ça tourne en rond. Ils ont besoin vital d'aller en Coupe d'Europe. Pour aller en Coupe d'Europe, bah, le mieux, c'est quand même d'investir un peu parce que ça te permet
mais
de
ça, d'accord,
ton
Daniel, d'accord,
donc,
mais c'est sur la décision qui a été prise. La décision là,
ben donc
pourquoi
si le football français,
pourquoi
je dis ça? Parce que si le football français doit admettre qu'on doit aider nos clubs en Coupe d'Europe parce que c'est là qu'il y a l'oseille, ce football français ne peut pas empêcher Lyon de décaler un match.
C'est ce qu'on nous a dit l'année dernière. L'année dernière, c'est ce qu'on nous a dit.
Mais comme aujourd'hui, il n'y a plus de ligue. La Ligue n'existe plus puisqu'il y a eu la loi sur le sport qui a été votée. Je ne sais même pas pourquoi il est encore en poste. D'ailleurs, Vincent Labrune, il devrait s'en aller. Je ne sais pas pourquoi il attend absolument.
Il reste encore quelques semaines pour que ça rentre.
Je ne sais pas pourquoi il attend.
Si là, c'est que semaine.
Non, mais il attend le coup de chausson. Mais part, c'est bon, ça suffit. Il doit encore tout organiser. Non, il décide pas. Il décide de plus rien.
Donc il y a qui doit décider. Lyon, en fait, ils se prennent.
Je ne sais pas.
C'est d'un nom de la farce, les mecs.
Mais voilà. Et donc là, effectivement, c'est une décision qui est difficilement compréhensible. Alors t'as toujours ceux qui ressortent des exemples. Oui, mais là c'était comme ça.
Donc on a ouvert la boîte de Pandore. Il faudrait la refermer définitivement.
Mais en fait,
et ne plus permettre ce genre d'ajustement de calendrier.
Après le truc, c'est que tu dois également dire que on a Ça, c'est la question. Tu sais que cette question-là, elle a posé l'année dernière. Parce qu'on a un championnat à 18 clubs. On a une seule coupe nationale. Bon, on doit quand même être capable d'organiser un calendrier comme il faut. Je rappelle quand même que chaque année, il y a l'histoire de la Coupe de France qui fait décaler des matchs, qu'après, c'est plus tout à fait équitable pour les équipes qui jouent. Chaque année, on a un calendrier complètement bordélique. Il va y avoir quand même quelqu'un, à un moment, capable de prendre des décisions pour organiser un calendrier comme il faut, pour prévoir que tu vas laisser... Et Lyon, il fallait qu'il joue là. Il fallait qu'il joue ce soir.
Oui, parce qu'ils ont joué mardi soir et ils rejouent mercredi, c'est ça ?
Mardi, trois jours, non. Oui, parce que oui, non, il fallait trouver le moyen.
Et surtout, c'est un dossier. Voilà, c'est un dossier quand même qui aurait dû être prévu.
De leur laisser quatre jours.
En amont, quand même, Jérôme, parce que bon, le premier tour de barrage, normalement, les clubs de Ligue 1, sur les dernières années, ils les passent. On l'a vu avec Lille. Il y a des grandes chances que tu te retrouves dans ce cas de figure. Avec cette première journée de championnat.
Alors, autre dossier, c'est évidemment, Rennes, qui concerne les compétitions, c'est le PSG-Rennes, qui devient Rennes-PSG, vous le savez, parce que le match a été finalement inversé, se disputera au Roazhon Park, parce
donc
que Paris...
Juste pour finir, ils vont faire tourner, hein, demain.
Bah oui, bien sûr. Entre Toulouse et l'argent qu'il y a
les quatre défenseurs titulaires contre Fenerbahçe sont absents, déjà.
Oui,
il n'y aura ni Abner, ni Niakate, ni Kluivert, ni Maitland-Niles.
Après, la vérité, c'est que, bon, ok, tu vas jouer samedi, tu vas faire jouer des remplaçants, le match mercredi. Bon,
oui, d'accord, mais c'est quand même une J1 de Ligue 1, c'est quand même un match très important. Mais bon, par rapport à Fenerbahçe, bien évidemment,
si ta priorité, c'est le barrage, oui. Et tu iras jouer le barrage, et puis voilà, et puis tu feras tourner.
Voilà. Contre Toulouse, on va pas.
En fait, non, mais c'est la vie normale. En fait, ce qui n'est pas la vie normale, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière.
Exactement. En fait, voilà, le truc, c'est que je suis partagé sur cette question. C'est que je suis partagé sur cette question parce que, en fait, c'est comme tu dis, comme on a ouvert la porte, tout le monde veut s'engouffrer maintenant. Mais dans l'absolu, ok, bah tu touches pas le calendrier, quoi.
Exactement.
T'arrêtes une bonne fois pour toutes. Ils jouent samedi, ils mettent une équipe avec des remplaçants.
Et du coup, on sera particulièrement attentif à ce qui se passera cette année.
Sauf qu'ils disent, comme on n'a pas de thunes, on n'a pas réellement d'équipe B, on n'a pas réellement de remplaçants, parce qu'on a des difficultés.
Oui, mais le débat, c'est par rapport au PSG, Daniel. C'est ça,
c'est
le
la porte ouverte.
C'est ça, en fait.
Mais alors,
c'est
ça. Boîte de mesure. Donc, en fait, c'est parce qu'il n'aurait pas fallu ouvrir la porte comme on l'a
bien
fait.
Évidemment.
Sauf que la porte, si on l'a ouverte autant, c'est parce que le monsieur qui a l'emploi fictif à la tête de la LFP, c'est le laquais du président
du PSG. Il y a eu Strasbourg l'année dernière, non ?
Strasbourg-Brest, on a tout fait, on a grand ouvert.
Strasbourg-Brest, il avait été. Non, il est où je me trompe.
Quand t'as ouvert
Strasbourg aussi.
Oui, quand t'as ouvert les portes,
ouvert les fenêtres. Ils ont le droit d'être comme des dingues.
Bien sûr, le PSG.
Bien sûr qu'ils ont le droit.
Le PSG, justement, qui n'a pas été capable d'organiser le match face à Rennes au Parc des Princes dimanche soir ou dans un autre stade de repli d'ailleurs, Stade de France, Jean-Bouin, Charletti, tout a essayé, rien ne fonctionne. Du coup, Rennes a accepté d'organiser le match. D'après le règlement, Rennes doit organiser également le match retour parce qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Arnaud Pouille, le directeur général du club breton. Est-ce que vous êtes d'accord avec la position du Stade Rennais, sachant qu'il y aura une réunion devant la commission d'organisation des compétitions la semaine prochaine ?
Ils ont totalement validé le fait d'organiser le match mercredi matin. On est vendredi. Organiser un match, c'est pas simple, en termes de le personnel à recruter,
les loges,
tes invités, les loges, tes spectateurs.
Les traiteurs.
Le tout n'est pas de remplir le stade avec les supporters qui vont venir, qui vont acheter les billets. Ok, ça c'est facile. Mais il y a tout le reste autour.
Et puis c'est pas Rennes logistique. Hein, Rennes PSG, c'est la machine Afrique.
Donc,
hein.
Donc c'est l'affiche. Tu veux pas la perdre, puisque le PSG, c'est le club qui remplit les stades en France. Tu peux pas te permettre. Et effectivement, qu'on sait qu'il y a des moments dans l'année où c'est le mieux de recevoir le PSG, parce que tu vas faire le plein, parce que tu vas avoir tes invités, tu vas avoir tous tes sponsors qui seront contents. Eux, on les prend de court, on leur dit vous voulez bien. Mais eux, ils ont dit oui, à la condition qu'on ne touche pas à celui du mois de mars. Parce que si tu leur avais dit tout de suite, vous l'organisez là, mais on vous enlève l'autre, ils auraient dit bon, non, on reporte, il n'y a pas de problème. Et moi, j'aurais parfaitement compris la position de Rennes, et je la comprends, la position de Rennes, en fait. Et c'est le PSG qui n'est pas prêt. Ben, le PSG avait qu'à aller sur autre chose. C'est-à-dire, bon, on reporte le match, on n'est pas capable de le faire, ou on peut faire autre chose. Mais ils ne peuvent pas venir réclamer d'inverser et d'être eux les organisateurs du match du mois de mars. Parce que là, c'est Rennes qui serait lésé par rapport au fait qu'ils n'ont que 4 jours pour organiser un événement sportif très important, qui dans une ville comme Rennes, ça draine énormément de choses. Les gens qui viennent et tout, sans compter que là, tu as des supporters qui avaient prévu d'aller à Paris, qui doivent annuler leur voyage. Il y a plein de choses qui sont chamboulées. Et d'ailleurs, moi, je trouve pas que les Parisiens rouspètent vraiment. Il y a beaucoup de supporters qui s'agitent un peu sur les réseaux. Mais on va attendre, parce que le 28, il va y avoir donc la réunion pour valider définitivement. Je ne sais pas dans quel état sont les dirigeants parisiens. Est-ce qu'ils sont réellement en colère de cette situation-là? Moi, à leur place, je serais plutôt en colère sur eux qui ont toujours eu une pelouse absolument nickel, parfaite, ouais, et un jardinier exceptionnel. Bon, ben là, ils sont dans la merde. Ouais, c'est arrivé à d'autres clubs d'être dans la merde de ce côté-là. Bon, ben écoute, moi, j'aurais fait autrement. J'aurais peut-être demandé le report.
Bon, Wally, t'es d'accord avec ça?
Je suis d'accord. Moi, pour moi, soit il y a un report du côté du PSG, d'accord, s'ils sont pas contents que Rennes reçoivent le deuxième match, soit ils se plient au règlement, et le règlement, c'est que Rennes, s'ils dépannent le Paris Saint-Germain, ils doivent avoir le deuxième match au Rennes, Park.
On peut dire que Rennes en profite.
Ils en profitent.
Après,
oui,
parce qu'ils auront un match à domicile en plus.
Après, il y a aussi.
Mais il n'y avait qu'à leur dire non, et il n'y avait qu'à avoir un règlement et des prises de décision claires pour dire ben non, dans ces cas-là, si vous l'organisez, c'est au détriment de l'autre. Ben, Rennes aurait
après,
dit
oui,
non,
ça peut ouvrir un autre tiroir. C'est les concurrents de Rennes à la Ligue des Champions qui diront ils ont la chance de recevoir deux fois le PSG.
C'est incroyable, parce qu'on n'a pas de LFP. Tout ça pour un champignon. On parle de Bordeaux. Walid, Daniel, on est dans l'after sur RMC encore jusqu'à minuit. Décision donc du tribunal administratif de Paris qui a maintenu la décision de rétrograder les Girondins de Bordeaux en Régional 1. L'équipe va donc repartir au 6e niveau et on accueille David Glusman dans l'after. Salut David.
Salut Jérôme, salut à tous.
Salut David.
Bon David, que s'est-il passé pour que le TA de Paris maintienne cette décision alors que Sparta Capital et son potentiel repreneur avaient promis d'apporter les fonds? Pourquoi on en arrive là?
Bon, on en arrive là parce que le droit a été respecté tout simplement, Jérôme. Dans la mesure où le tribunal administratif de Paris ne se prononce que sur le fond, le droit, la légalité, et pas sur le fond du dossier. La question, c'était pas de savoir si le projet de Sparta Capital et de ses actionnaires était viable. La question, c'était de savoir si le projet avait été présenté dans les délais. En DNCG d'appel, donc le 15 juillet, les fonds nécessaires au financement de la saison n'étaient pas présents. Ils sont arrivés 15 jours après, dans la mesure où ils sont arrivés une fois que Gérard Lopez a décidé de s'asseoir sur sa clause de retour à meilleure fortune et sur ses comptes courants d'actionnaires. Donc, dans la mesure où il y a une nouvelle structure financière entre la DNCG d'appel et le CNOSF, c'est un élément nouveau que la DNC, les instances n'étaient pas tenues de prendre en compte. Donc, décision sur le plan juridique, absolument logique. Après, moi, comme je l'ai déjà dit samedi dernier dans l'after, d'un point de vue business, d'un point de vue financier, avec ma casquette business et pas de supporter girondin, je tiens à le souligner, je trouve ça quand même dommage qu'en 2026, un investisseur qui est certes en retard, qui est prêt à dépenser plus de 20 millions d'euros, puisque plus de 20 millions d'euros ont été sécurisés, 20 millions d'euros, c'est 3 années d'exploitation, se voit fermer la porte au nez, notamment par la fédération. Mais je ne blâme ni la fédération.
Moi, David, je suis très réservé sur ces gens-là. Des gens qui arrivent en retard, des gens qui, quand ils parlent, disent autant de conneries, soi-disant des gens sérieux, qui ont de l'oseille. Moi, je suis très méfiant par rapport à ce monsieur-là, comment il s'appelle, là, ton ami, là, Delport, là, Desport.
Ah non, c'est pas mon ami.
Oui, non, la façon dont il parle, ce serait le futur probable président
Dominique Delport, je crois.
Oui, non, mais la façon, mais oui, ne vous inquiétez pas, Zidane nous soutient et Macron va intervenir. Ça me semble pas être des gens sérieux.
Daniel, c'est pas parce qu'il y a, et encore une fois, je ne parle pas en tant que.
Comment ça, c'est pas parce que les mecs qui racontent, les mecs, ils brassent de l'air, c'est une pompe à vélo, le mec.
Non, mais tu peux
pas
parler
comme ça, tu peux pas me dire que c'est des gens sérieux. Le gars, il arrive, il te mouille Zidane, il te mouille Macron à peine arrivé, et en plus,
Daniel,
il arrive en retard pour l'oseille.
Tout ce que je te dis, c'est qu'il y a 20,6 millions d'euros qui sont arrivés, certes trop tard, qui ont été sécurisés. Comment ? Par de l'argent qui est en compte séquestre, donc ça, c'est pas du vent, et par une lettre de crédit qui a été émise par JP Morgan.
Je te rappelle que Lopez aussi, quand il est arrivé, il avait 2-3 billes, et il a mis le club dans le ravin. Moi, je te dis que ce gars-là, même s'il avait 10 ou 20 millions, machin, moi, la façon dont il parle, ça me semble pas être quelqu'un de sérieux. Je suis supporter de Bordeaux, j'ai pas envie qu'il vienne, le gars.
Daniel.
C'est pire, c'est lui qui va gérer le club, alors.
Il est président délégué.
Comment tu m'expliques ce qu'il raconte? Tu les as vus, ces propos, David?
Mais Daniel,
le président délégué, c'est lui qui va gérer.
Je les ai critiqués en prime time. On s'est moqué de lui dans l'after. On s'est moqué de ses sorties sur Twitter. Donc je peux pas te dire mieux, mais là la question c'est pas de savoir si Dominique Delporte.
Quand tu veux vraiment un projet, t'arrives pas en retard avec l'oseille. T'arrives pas en retard avec l'oseille quand tu veux vraiment
Daniel,
la question maintenant, s'il faut avancer, parce que il faut avancer, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'ils sont en R1. Le pire, c'est que ils sont pas au bout de leur peine, les Bordelais. C'est que maintenant qu'ils sont complètement à la rue, qui c'est une espèce de cadavre, ben il y en a quand même encore plein de gens qui tournent autour. Et là maintenant, ceux qui tournent autour, c'est les anciens. Donc on a Trio, qui c'est lui le patron de l'association. Là, lui, il veut arriver avec des gens qui auraient de la thune, des anciens joueurs qui veulent filer un coup de main. On a peut-être certainement d'autres projets qui vont avec d'autres anciens présidents qui vont sortir du bois. En fait, t'as l'impression que tout ce qui reste de Carteron, d'amoureux du club bordelais vont s'engueuler entre eux sur quelle est la meilleure solution alors qu'on est en régional 1, qu'on est complètement dans la merde.
Pas encore sûr.
Qu'est-ce qui va être la moins pire ou la meilleure solution?
Bon, Daniel, maintenant, comme tu l'as dit, s'il y a liquidation, il devrait y avoir reprise par l'association. Et Jean-Louis Trio, qui est président de l'association, s'est déjà posé en faiseur de roi.
Visiblement, il a envie de faire un dernier tour de piste avec des anciens joueurs. Moi aujourd'hui, je me méfie de tout le monde à Bordeaux, moi. Moi, je me méfie de tout le monde.
Non, mais attends. Mais Daniel,
je ne sais pas quel sera le meilleur dossier, même au plus bas niveau.
C'est pour ça aussi que, à mon avis, le moindre mal, c'était la reprise du club en N1, dans la mesure où nous n'avons pas de Marc Keller à Bordeaux, nous n'avons pas de Thierry Gomez à Bordeaux, Daniel. Nous n'avons pas de personne économiquement,
financièrement. Il faudrait quand même, il y en a plein qui sont là, il y en a plein des anciens là. Il y a Stéphane Martin qui va sortir du bois, Jean-Louis Trio est déjà là, il va y en avoir.
Non, mais Jean-Louis Trio, les amoureux du club, Daniel. Jean-Louis Trio l'était déjà dépassé lors de son passage de témoin.
Ah, mais moi je te dis pas que c'est une bonne solution, parce que je suis en train de te dire que justement, moi, tout m'inquiète. En fait, tout m'inquiète à Bordeaux.
Tout m'inquiète également, mais encore une fois.
Et le mec qui avait les 10 millions, là, il m'inquiète encore plus.
Il n'y a personne. Non, mais oui, mais c'est
David,
pas lui qui avait les 10 millions, c'était les actionnaires.
En tout cas, c'est vraiment un club à l'agonie. Et moi, franchement, je suis supporter Bordeaux. Un type comme Gérard Lopez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas un type comme ça. Ce gars-là se regarde dans une glace le matin.
Ouais, c'est
sa responsabilité va peut-être être engagée, mais ce sera difficile à mettre en jeu.
Bon, il va retourner tranquille à Ibiza. Et puis voilà.
Immense tristesse en tout cas donc de voir les Girondins.
C'est dur de rester
confirmé.
Calme quand t'es supporter face à un homme comme ça.
Le mec qui t'a crevé depuis le début, on savait qu'il allait les crever.
J'ai les amis supporters bordelais.
Et les assos de supporters qui ont soutenu Lopez. Les assos de supporters.
Faut se regarder dans une glace aussi.
Quand on dit parfois il faut faire parler les supporters, il faut les laisser décider dans les clubs et tout. Faisons attention aussi à ça parfois.
Alors les suites disciplinaires de la finale de la Coupe du Monde avant le mercato. Il nous reste quelques minutes, Walid, Daniel. On est sur RMC dans l'after. Les comportements violents, vous vous en souvenez évidemment, après la finale de la Coupe du Monde. La FIFA a frappé fort aujourd'hui. Suspension de Leandro Paredes pour 10 matchs. Suspension de Nahuel Molina pour 7 matchs. Suspension pour un match de Thiago Almada, de Roberto Ayala, l'un des adjoints de Scaloni, et de l'Espagnol Gavi. On parle d'amendes également qui vont de 25 000 à 77 000 euros. Et la Fédération Argentine, elle, va devoir payer 265 000 euros pour... plusieurs violations. Il n'y a pas de match à huis clos. Qu'est-ce que vous pensez de ces sanctions?
Très bien. Comportement de voyous des Argentins.
Je ne pense pas grand-chose. Ils ont décidé, ils méritent les sanctions. Les mecs, ils ont déconné.
Ils ont été minables. Je n'ai même pas tellement à commenter.
Je ne sais pas sur quoi ils se sont basés, la FIFA. J'imagine qu'il y a eu d'autres cas similaires où les matchs se sont terminés comme ça. Quand je vois ce qu'a fait Paredes, qu'ils prennent 10 matchs, ça ne me semble pas scandaleux.
Le mercato, Terem Moffi est attendu à Hambourg ce soir. Fabrice Hawkins, on parle d'un transfert.
Terem Moffi, il existe encore?
Accord total.
C'est surtout
2,5 millions d'euros.
Ils ont trouvé un acheteur.
Ouais.
Ils ont trouvé un acheteur.
Contrat de 3 ans.
Il a le genou en vrac, hein, Terem Moffi.
Parce que.
Médicale demain matin.
Oui, c'est pas fait alors.
Non.
Donc on est en train de parler de Terem Moffi qui, quand Nice l'a acheté de Lorient, et tu te souviens, il y avait eu une guerre avec l'OM là.
25 bâtons.
Le directeur sportif à l'époque à Nice, Flo Ghisolfi, était aux anges d'avoir en gros doublé l'OM pour attirer ce joueur. 25 barres.
Ouais.
25 barres. Le mec aujourd'hui, il vaut ça. Je pense à Kevin qui parfois s'enflamme sur le prix des transferts. Ouais. On fait n'importe quoi sur le niveau des joueurs et tout. Moffi, c'est que dalle. Ça vaut rien.
Rappeler que le duel entre Nice et l'OM, c'était l'hiver. Hein, c'était pas l'été,
c'était l'hiver.
C'était Vitinha et Terem Moffi.
Et Vitinha, pas du PSG. Ouais. Vitinha à 32. Vitinha à 32 et Terem Moffice. Et donc, les deux ont acheté deux voitures volées sur le bon coin. Et aujourd'hui, bah, c'est catastrophique.
En bref, Crystal Palace est intéressé par Moffice, son Mbutu Magasa.
C'était une Porsche, c'est une Twingo maintenant. Ouais, ouais.
Magasa qui était à Monaco, qui avait été transféré à West Ham. Crystal Palace veut le récupérer. Metalli, c'est fait à Sunderland. Ouais. Ah. Finalement, le transfert a été officialisé. Pas de problème de dos. 28 millions d'euros le transfert.
Metalli, on en a parlé sur les postes des latéraux qu'on cherche en équipe de France. Je pense que sur les deux prochaines années, on va vite l'avoir en équipe de France.
Le PSG a fixé le prix d'Ibrahim Mbaye. 70 millions d'euros réclamés par le club de la capitale. Liverpool ne veut pas monter au-delà de 50. Ça va poser un problème.
Ouais. Ah bon, bah,
70 millions d'euros,
50, c'est déjà énorme. Il a fait quoi, Mbaye, en fait? C'est un prospect, c'est un joueur d'avenir, c'est un pari, quoi.
Ouais, mais 70 millions d'euros, ça montre quand même qu'ils tiennent à Mbaye, quand même, le PSG. Parce que s'ils veulent.
Ils affichent les prix.
Oui, mais les prix, enfin,
quand t'as une boutique de luxe,
enfin, si
tu mets
envie de le sortir.
Tu mets des gros tarifs sur les tickets.
Oui, mais si t'as envie de le sortir, tu mets 35,
ça,
40, 50.
C'est un début de discussion, ça.
Enfin, là, s'ils vendent pour 100, 130 Barcola et 60, si les deux partent pour 200, c'est quand même, moi, je trouve très bien vendu.
Ah oui, bah, tu m'étonnes. Ouais.
Après, ils ont des qualités, hein, mais je trouve que c'est très bien vendu. Surtout deux joueurs qui veulent partir.
Comme, mais les tarifs ne veulent plus rien dire en Angleterre, on sait plus. Quoi. Ouais.
Un dernier mot sur Julian Alvarez, puisque la porte a été fermée par le président de l'Atlético de Madrid, Miguel Angel Ril.
Mais la porte pour le Barça.
La porte pour un départ.
Tout court.
La porte pour un départ.
Je crois que c'était au Barça, on veut pas, on discute.
Nous allons aider Julian et continuer à prendre soin de lui afin qu'il puisse exploiter pleinement son potentiel. Ouais. Nous avons besoin de lui. Il faut comprendre que Julian n'a pas été entouré des meilleurs conseillers concernant sa carrière professionnelle ces derniers mois.
En prendre soin de lui, les attaquants qui réussissent à l'Atlético de Madrid sur les 10 dernières années, il n'y en a pas 10 000. Hein. C'est-à-dire que moi j'aime bien, mais bon, Julian Alvarez, j'aimerais bien le voir ailleurs qu'à l'Atlético de Madrid.
Qu'il
ait deux trois occasions par match,
pour son jeu,
plus de deux occasions par match.
Pour moi, c'est un des meilleurs neufs. Hein. Pour moi, il est top 3 des neufs en Europe.
Mais il est en train de s'enliser. Il est en train de s'enliser, stagner.
Je veux pas qu'il s'encroute. J'ai envie de le voir dans un grand club et titulaire, pas doublure ou pas. Je suis là, mais il y a déjà un super neuf à ma place. En gros, comme c'était à City. Là, à l'Atlético, c'est le jeu qui lui convient pas. Ah, j'aurais aimé qu'il soit dans une équipe où le jeu lui convient.
Mais bon, il est quand même parti à la faute en disant qu'il voulait se barrer pendant la Coupe du Monde, parce que ça lui a un peu tué sa Coupe du Monde.
Mais là, je pense que c'est à ça que se réfère le président de l'Atlético en parlant des conseillers.
Les garçons, l'after revient demain soir. Wally, tu seras là?
Demain, je suis là.
Avec Maxime également.
Premier train demain, 8h.
Ah ouais.
On repart au boulot, c'est fini.
Il y a des trains plus tôt.
Ouais.
Surtout que t'as une soirée ce soir, je sens.
Non. Repos, c'est fini.
Bon, les garçons, c'était un plaisir.
On repart au charbon.
Non, il est à la salle de sport entre 6 et 7.
Ah oui, c'est vrai.
On repart au charbon.
Ah, il est pas au padel?
Ouais, faut attendre. 6h, il fait un peu footing en salle de sport. 7h, petit déj, 8h dans le train.
Faut la reprendre, cette salle de sport.
Voilà. C'était l'after. L'after en direct du Vélodrome pour lancer cette grande saison de Ligue 1 sur l'antenne de RMC. L'after reviendra demain. After Live, bien sûr, avec le multiplex et l'after jusqu'à minuit. Très bonne soirée, bonne nuit à tous. Et on se dit à demain, bien évidemment. Ciao.
RMC, l'after foot.